Bitcoin, c'est une monnaie numérique qui fonctionne de pair à pair. D'une part, Bitcoin va permettre de pouvoir posséder réellement son argent numérique, donc la possibilité de détenir vraiment son portefeuille et ses actifs sans dépendre d'un tiers. Et la deuxième proposition, c'est Bitcoin comme réseau de paiement qui va permettre de s'envoyer de l'argent de manière indépendante et de pouvoir choisir de ne pas dépendre d'intermédiaires pour effectuer des paiements. C'est tout le mouvement des cypherpunks qui a pour objectif la protection de la vie privée en ligne. En France, la très grande majorité des gens qui achètent du Bitcoin le font parce qu'elles pensent que ça va être un moyen de gagner de l'argent, de diversifier leur patrimoine, de se protéger un peu contre l'inflation. Je vois vraiment Bitcoin comme une sorte de contre-pouvoir et de garde-fou, qui est une sorte de garantie que nos systèmes ne vont pas devenir des systèmes de surveillance massive ou des systèmes complètement totalitaires. Si les populations ne seront pas satisfaites du système dans lequel elles sont, parce qu'il y a une mainmise trop importante, par exemple, parce qu'elles se sentent surveillées, Bitcoin fait office de contre-pouvoir et permet, je dirais, des actes de résistance. Moi, je crois que Bitcoin est vraiment essentiel dans nos sociétés aujourd'hui.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comprendre Bitcoin. Je suis Alexandre Roubaud, cofondateur et CEO de Bitstack, la première application en France qui permet d'épargner et investir dans le Bitcoin sans aucun effort. Aujourd'hui, nous avons un épisode idéal pour ceux qui débutent et qui souhaitent découvrir Bitcoin dans un langage simple et accessible à tous. Pour aborder ce thème, nous sommes ravis d'accueillir Claire Balva, une experte dans le domaine de la blockchain et de la crypto-monnaie. Claire a une connaissance approfondie du Bitcoin et de la blockchain, acquise grâce à son expérience en tant que cofondatrice de Blockchain Partners, et elle va nous en parler dans quelques instants, et plus récemment chez KPMG. Claire, merci beaucoup d'être là, et on est ravis de t'avoir aujourd'hui.
Merci pour l'invitation.
À vous qui nous regardez, j'espère que vous apprécierez l'épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, à laisser un like, à commenter. Toute l'équipe est toujours ravie de lire vos commentaires, et n'hésitez pas à nous donner vos avis sur les prochains invités qu'on pourrait accueillir sur le podcast de Comprendre Bitcoin. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Claire, on se connaît depuis quelques moments maintenant. On s'est rencontrés notamment à la conférence de Surfing Bitcoin via un ami, une personne en commun qui travaillait avec toi chez KPMG, c'est
oui,
ça ?
Oui, Stanislas, tout à fait.
Stanislas Barthélémy. Et depuis, tu as pu suivre l'évolution du projet de Bitstack et pour ça qu'on est aujourd'hui ravis de t'avoir. Est-ce que j'aime toujours poser cette première question à tous nos invités ? Est-ce que tu pourrais nous parler de la première fois où tu as entendu parler du Bitcoin ?
Alors, bonne question. La toute première fois, c'était bien avant que je monte ma boîte. C'était en 2013, au moment où il y avait la première hype autour de Bitcoin, où il avait dépassé les 1 000 $. Moi, à l'époque, j'étais en école de commerce et je me souviens que c'était mon oncle qui, à un moment donné, avait parlé de Bitcoin. Je lui avais dit, mais c'est quoi Bitcoin ? Et il était sidéré que je ne connaisse pas Bitcoin alors que j'étais en école de commerce et quand même, on était censé nous apprendre des choses là-bas. Et c'est vrai que ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, on commence à voir seulement émerger des cours dans les écoles, mais on est 10 ans plus tard. Donc, c'est la première fois que j'en ai entendu parler, mais évidemment, j'en ai pas acheté. Et j'en ai réentendu parler, du coup, 2 ans plus tard, quand on a commencé à réfléchir sur les sujets Bitcoin, blockchain, avec mes associés de l'époque.
Ok, super intéressant. Est-ce que tu pourrais, alors j'ai donné un peu à tout le monde qui nous écoute une petite intro, mais est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu ton parcours et du coup, ce qui t'a amené à travailler sur le sujet ?
Bien sûr, donc je m'appelle Claire Balva. J'ai monté une boîte qui s'appelle Blockchain Partner, que j'ai cofondée en 2015 avec des amis de promo. Et Blockchain Partner, c'était, je dirais, le premier ou le plus gros cabinet de conseil pure player en France. Et donc, nous, on conseillait des grands groupes, principalement, mais aussi un peu des startups, sur leurs problématiques autour de... Alors, à l'époque, on parlait beaucoup de blockchain, mais plus largement de ce qu'on appellerait aujourd'hui le Web3 ou les cryptos. Donc, on a bossé pour un peu plus de la moitié du CAC 40. Et puis, on a revendu l'entreprise en 2021, début 2021, à KPMG, où je suis restée ensuite 1 an et demi en tant que directrice blockchain et crypto. En parallèle de ça, j'ai eu quelques activités d'acculturation auprès des pouvoirs publics et du grand public. Donc, je fais partie notamment des cofondateurs de l'ADAN, par exemple, qui est l'association, la fédération des acteurs crypto.
On a eu Faustine Fleuret dans le dernier épisode, voilà, donc les gens qui nous écoutent connaissent bien.
Présidente, voilà, c'est exactement. Ça. J'ai écrit 2 bouquins, un sur la blockchain décryptée et un plus sur Bitcoin et les cryptos avec Alexandre Stachenko, qui était mon associé. Et aujourd'hui, là, ça fait 1 an que j'exerce en tant qu'indépendante. Donc, je fais toujours du consulting, plutôt pour les grandes entreprises. Et je leur apporte une expertise sur ces sujets-là, donc que ce soit sur le côté financier ou aussi utilisation des cryptos pour d'autres cas d'usage, notamment plus Web3 marketing, par exemple.
Ok. On va peut-être en parler après. Avant de rentrer un peu plus dans le détail, est-ce que tu pourrais rappeler à ceux qui nous écoutent, pour toi, qu'est-ce qu'est le Bitcoin ? C'est quoi sa proposition de valeur ? Un peu la définition dans les grandes lignes.
Ouais, alors c'est toujours difficile parce que moi souvent quand j'explique Bitcoin, j'essaie de m'adapter le plus possible à la personne en face. Donc je vais essayer de donner une définition très générique. Pour moi, Bitcoin, c'est une monnaie numérique qui fonctionne de pair à pair et donc sa proposition de valeur pour moi, elle est double. D'une part, Bitcoin va permettre de pouvoir posséder réellement son argent numérique, donc c'est tout ce qu'on appelle la self-custody, donc la possibilité de détenir vraiment son portefeuille et ses actifs sans dépendre d'un tiers. Et la deuxième proposition, c'est pour le coup un usage qui est plus autour du paiement. Donc c'est Bitcoin comme réseau de paiement qui va permettre de s'envoyer de l'argent sur ses portefeuilles ou via des intermédiaires, mais en tout cas de pouvoir le faire de manière indépendante et de pouvoir choisir de ne pas dépendre d'intermédiaires pour effectuer des paiements.
Ok. Et quand on reprend un peu justement la genèse de Bitcoin, donc quand Satoshi Nakamoto, qui est le pseudonyme de la personne qui a créé Bitcoin en 2008 et 2009 avec les premières utilisations de Bitcoin, pour toi, est-ce qu'il y a eu une évolution du cas d'usage de Bitcoin ou sa proportion de valeur est restée la même ?
Tu veux dire entre le tout début et
ouais,
aujourd'hui ?
C'est ça.
Alors oui, il y a eu plein d'évolutions. Ne serait-ce que quand on regarde la communauté autour de Bitcoin. À l'époque, c'était vraiment des personnes qui, déjà, étaient quand même assez familières de l'informatique et des outils numériques, parce qu'on ne pouvait pas arriver dans Bitcoin comme aujourd'hui, où tu vois, tu peux télécharger Bitstack et assez facilement, tu peux acheter du Bitcoin. À l'époque, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Donc, la communauté faisait que, finalement, la proposition de valeur s'adressait plus à des personnes qui étaient assez geeks, finalement. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a une dimension double qui était peut-être pas complètement vue à l'époque. Il y a le côté actif, vraiment financier. Et donc, effectivement, il y a beaucoup plus de gens qui vont acheter du Bitcoin comme investissement et pas pour son projet politique. Et à côté de ça, Bitcoin a aussi trouvé une place, je pense, en matière politique sur, par exemple, la lutte contre l'inflation, pas tellement en France, mais en tout cas dans d'autres pays, comme une sorte d'actif refuge, finalement, pour des populations qui n'ont pas d'autre alternative que la monnaie de leur pays qui a une inflation déliante. Et ça, je pense qu'on ne l'avait pas complètement vu à l'époque. Enfin, moi, je n'étais pas là, mais je suis arrivée en 2015 et je visualise quand même un peu ce que c'était à ce moment-là. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a à la fois une exacerbation du côté financier, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'entreprises, par exemple, qui ont spéculé sur Bitcoin, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Mais on voit aussi beaucoup plus de gens s'identifier au projet politique, alors que finalement, à l'époque, c'était vraiment un truc de niche, de gens qui étaient soit très idéologues, mais plus sur la partie vie privée, par exemple, ou qui étaient très techniques.
Ok. Et pour toi, c'était, si on essaie de se mettre dans la peau de Satoshi, c'était quoi sa motivation derrière la création de Bitcoin ?
C'est tout le mouvement des cypherpunks qui a pour objectif la protection de la vie privée en ligne, qui existe toujours aujourd'hui, bien sûr, mais qui n'est plus la seule composante de Bitcoin. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a d'autres projets qui ont émergé, qui sont peut-être plus en adéquation d'ailleurs avec cette idéologie cypherpunk, qui sont des projets de crypto-monnaies beaucoup plus anonymes, tu vois, les Monero et autres. Et on voit d'ailleurs sur Bitcoin qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui se focalisent sur la traçabilité des transactions, qui vont proposer de l'analyse de données là-dessus. Et donc, toute cette dimension de protection de la vie privée, même si elle existe encore avec Bitcoin aujourd'hui, elle est moindre, je trouve. Et c'est vrai que ça, c'était l'esprit de Satoshi Nakamoto au début.
Ouais, c'était le cash digital anonyme.
Alors, factuellement, ce n'est pas anonyme, c'est pseudonyme, puisqu'il y a quand même des adresses, mais c'était la possibilité d'effectuer des transactions de manière à la fois incensurable et de ne pas être systématiquement tracé, surveillé par des gouvernements, des États ou des grandes entreprises.
Et tu l'as donné dans ta définition, pour revenir un peu sur la définition de Bitcoin que tu as donnée plus tôt, tu parlais de monnaie numérique. Donc souvent, les gens aiment bien tirer une comparaison directe entre Bitcoin comme monnaie numérique et les monnaies traditionnelles. Pour toi, c'est quoi un peu les différences et en quoi Bitcoin vient être en compétition avec les monnaies traditionnelles ?
Alors, il y en a plein, mais c'est vrai que c'est la première objection qui vient à l'esprit, c'est de se dire, mais l'euro, c'est déjà numérique, on en a dans nos comptes bancaires. Bien sûr que l'euro est déjà numérique, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on critique parfois les projets d'euro numérique de la Banque centrale, c'est qu'on ne voit pas bien où ça va, puisque l'euro qu'on a, toi et moi, sur nos comptes bancaires, voilà, on le voit déjà sur notre ordinateur. En revanche, techniquement, ce n'est pas du tout la même chose, puisque l'euro que tu détiens dans ton compte bancaire, il est techniquement détenu par ta banque. C'est des 0 et des 1 dans le système informatique de ta banque. En réalité, je simplifie, mais c'est quand même ça. Alors qu'avec Bitcoin, tu as cette possibilité de détenir, techniquement parlant, ton Bitcoin toi-même. Alors, il y a des subtilités techniques, évidemment. Il y a plein de gens qui ont du Bitcoin, qui le détiennent via des plateformes, mais tu as cette possibilité de détenir réellement ton argent qui, pour moi, est un vrai game changer parce que même si les gens ne l'utilisent pas au quotidien, toujours, voilà, il y a plein de gens qui n'ont pas leur propre ledger, leur propre portefeuille. Le simple fait que cette possibilité existe induit un rapport de force complètement différent avec nos institutions. Et ça crée une forme de contre-pouvoir naturel qui pour moi, est très puissante. Donc ça, c'est vraiment la différence fondamentale pour moi entre Bitcoin et les monnaies traditionnelles telles qu'on les connaît. Après, bien sûr, il y a d'autres différences qui sont que, hein, par exemple, l'euro, c'est contrôlé et émis par une banque centrale, alors que sur Bitcoin, il y a une transparence sur l'émission des nouveaux Bitcoins et les choses sont gérées par un algorithme qui est open source et que tout le monde peut aller consulter.
Et on parle aussi souvent du fait que la politique monétaire, du coup, parce que tu parles de l'émission qui est contrôlée par une banque centrale pour les monnaies traditionnelles comparées à Bitcoin, sur Bitcoin, c'est prévisible et désinflationniste versus... imprévisible et inflationniste pour les banques centrales.
Et on a quand même cette visibilité sur Bitcoin, sur la quantité de Bitcoin émis qui ne dépassera pas les 21 millions. Alors, certains disent, oui, mais si le consensus décide de changer ça, c'est possible. Effectivement, c'est possible, mais c'est une caractéristique de Bitcoin qui est tellement importante, cette quantité finie de Bitcoin émis, que c'est extrêmement improbable qu'il y ait un consensus un jour pour changer ça. Si jamais il y a un consensus un jour pour changer ça, c'est que ça deviendrait nécessaire, j'ai envie de dire, pour sauver le réseau Bitcoin.
Puis il faudrait quand même une majorité presque absolue pour que... Et pour ceux qui nous écoutent, pour rappeler, c'est les fameux 21 millions dont les gens parlent, même si d'ailleurs, pour ceux qui sont un peu plus techniques, c'est proche de 21 millions et ça sera jamais 21 millions. Est-ce que tu peux nous parler de l'aspect, on parle souvent Bitcoin, crypto-monnaie, on parle de décentralisation. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est que ce concept, à quoi on fait allusion quand on parle de décentralisation sur Bitcoin?
Alors, je disais à l'instant que derrière Bitcoin, il n'y a pas de banque centrale. Il n'y a pas de banque centrale du Bitcoin comme il peut y avoir une banque centrale pour l'euro, par exemple. Mais forcément, quand il n'y a pas de banque centrale, il faut trouver un moyen de gérer la gouvernance du réseau. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que derrière Bitcoin, derrière d'autres crypto-monnaies, d'ailleurs, il y a une gouvernance qui est décentralisée. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des gens, des particuliers, des entreprises qui vont décider de participer au réseau et d'héberger le registre de toutes les transactions en Bitcoin, qu'on appelle la blockchain, et qui vont décider de participer à la validation des nouvelles transactions, qu'on appelle le minage. Et donc, ces personnes, ces particuliers, ces entreprises, un peu comme dans du logiciel open source, tu vois, ils vont mettre à disposition des machines, ils vont héberger un certain nombre de données. Ils vont aussi parfois dépenser de l'électricité pour participer à la validation des transactions. Et donc, ce sont toutes ces personnes et toutes ces entreprises qui font le réseau Bitcoin. Donc, c'est aussi pour ça qu'on parle de communauté. La communauté Bitcoin, c'est à la fois les utilisateurs, c'est les développeurs qui participent aux évolutions de l'algorithme, mais c'est aussi toutes ces personnes et ces machines qui participent techniquement parlant au réseau.
C'est ça, il y a plein de parties prenantes entre les mineurs, les développeurs, les utilisateurs. Et c'est ce qui fait aussi, et moi j'aime bien toujours le rappeler, c'est les utilisateurs, donc ceux qui téléchargent et qui utilisent le logiciel de Bitcoin, qui sont vraiment ceux qui appliquent les règles du protocole.
Oui,
c'est ça.
Tout à fait. Alors, ils peuvent décider de ne pas les appliquer, mais dans ce cas-là, ils vont créer une...
Voilà, c'est là où il y a un enjeu de consensus, du coup, sur le protocole. OK. Une autre question qui me vient en tête, c'est souvent la distinction que les gens ont, ou en tout cas, les gens veulent comprendre la différence entre Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Et on sait qu'il y a une distinction, en tout cas, qui est là. Pour toi, est-ce qu'il y en a une? S'il y en a une, quelles sont les grandes différences entre Bitcoin et les autres crypto-monnaies?
Oui, il y en a une, bien sûr. Déjà, il y a une différence d'ancienneté qui fait que Bitcoin a quand même, aujourd'hui, une maturité en termes d'écosystème, mais aussi de technicité, que d'autres n'ont pas. Et Bitcoin a une forme de solidité et de robustesse technique que d'autres crypto-monnaies n'ont pas. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je considère Bitcoin comme probablement la crypto-monnaie la moins risquée. Même si certains vont dire « c'est quand même super risqué d'acheter du Bitcoin », oui, dans une certaine mesure, mais en réalité, si vous voulez commencer dans la crypto-monnaie, c'est bien de commencer par Bitcoin. Donc déjà, c'est une première différence, et c'est ce qui fait que Bitcoin représente quand même une partie substantielle du marché. Je ne sais pas combien on est aujourd'hui, mais généralement, on est autour de 40%, comme ça. Et donc, ça fait de Bitcoin un emblème dans les crypto-monnaies. Et après, il y a des différences idéologiques. Alors, je parlais tout à l'heure, par exemple, d'autres crypto-monnaies qui sont complètement anonymes, donc qui ont leurs particularités. Il y a certains membres de la communauté Bitcoin qui ont décidé de créer un nouvel écosystème qui s'appelle Ethereum, qui a, je dirais, plus de flexibilité que Bitcoin, avec des améliorations techniques plus fréquentes, mais qui pose un certain nombre de questions, selon certains, en tout cas, en termes de sécurité du réseau. Et il y a une idéologie aussi très différente dans la communauté Ethereum, qui est peut-être plus pro-business, là où derrière Bitcoin, il y a quand même un projet politique particulier.
Ok. C'est vrai que sur Bitcoin, les gens aiment bien rappeler que c'est donc le plus ancien, tu l'as dit, mais du coup, le plus distribué ou décentralisé, le plus sécurisé, du coup, le plus utilisé globalement de toutes les crypto-monnaies.
Oui, alors le plus utilisé, il faudrait regarder les chiffres, parce qu'aujourd'hui, les stablecoins, notamment, sont très utilisés. Mais en tout cas, Bitcoin, c'est vraiment la crypto-monnaie par laquelle on commence et qui est quand même, alors si on met de côté les stablecoins qui sont indexés aux monnaies traditionnelles, Bitcoin est globalement la crypto-monnaie la plus stable du marché, qui a une volatilité qui est quand même importante par rapport aux autres actifs, mais qui est moindre par rapport à de nombreuses crypto-monnaies. Et c'est vrai, tu le disais, c'est une caractéristique importante que j'ai oubliée, c'est la crypto-monnaie la plus décentralisée. Et ça, c'est important parce que c'est aussi un facteur de résilience.
En fait, pour moi, c'est le fait que ça soit la plus décentralisée, c'est ce qui permet qu'elle soit réellement résistante à la censure.
Tout à fait.
C'est ça, certainement pour moi aussi, la caractéristique clé de Bitcoin. On en parlait au tout début, qu'il y a plusieurs cas d'usage. On parlait un peu de la partie actif financier maintenant, puisque Bitcoin, c'est un peu plus institutionnalisé. Les gens l'utilisent comme nouvel moyen d'épargne, d'investissement. Il y a aussi la partie transaction, paiement. En plus, il y a plusieurs cas d'usage dans différents endroits du monde. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, pour toi, comment Bitcoin est utilisé aujourd'hui, généralement ? Un peu les différents cas d'usage, et si d'ailleurs il y a différents cas d'usage dans différentes parties du monde.
Oui. Alors oui, complètement. En France, par exemple, on a des chiffres. La très grande majorité des gens qui achètent du Bitcoin le font pour une raison financière. Alors, selon les éléments de langage, on peut dire de l'investissement, de la spéculation, ça peut être plus long terme, plus court terme. Mais en tout cas, les personnes qui achètent du Bitcoin le font parce qu'elles pensent que ça va être un moyen de gagner de l'argent, de diversifier leur patrimoine, de se protéger un peu contre l'inflation. Il y a une minorité de gens qui en achètent, ça doit être autour de 10-12% par méfiance envers le système bancaire quand même, donc c'est pas négligeable même si c'est pas la première raison.
Et juste pour rebondir, ouais. Pour eux, ça va être pour s'affranchir ou par méfiance dans le sens où ils pensent que le système peut s'écrouler ?
Alors bonne question, c'était pas spécifié, c'est un sondage Ipsos, ouais. Donc c'est pas précisé, mais effectivement il y a peut-être,
Il
y a peut-être plusieurs
sous-catégories.
Plusieurs sous-catégories, effectivement. Mauvaise expérience avec leur banque, elles en ont marre des contacts avec leur banquier, elles en ont marre qu'on leur demande de justifier 50 fois tel ou tel virement.
Que leurs dépôts soient investis pour faire de l'argent pour la banque.
Aussi, tout à fait. Et puis tu vas avoir des gens effectivement qui n'ont pas confiance et qui ont peur, tout simplement, parce qu'ils se disent « demain, peut-être que la banque va faire faillite, etc. » Donc tu as tous les cas de figure possibles. Maintenant, ça, c'est une vision très franco-française, ou en tout cas, c'est une vision, je dirais, de pays riches.
Occidental, voilà, globalement.
De pays qui n'a pas trop de problèmes. Tu vas aussi avoir des utilisations de Bitcoin dans des situations beaucoup plus tendues. Par exemple, on avait vu que lors de l'invasion de la Russie en Ukraine, il y avait eu une augmentation d'un coup du cours de Bitcoin par rapport à la monnaie ukrainienne, parce que les gens se sont rendus compte que leur système économique était vraiment en danger, qu'ils n'allaient pas pouvoir retirer leur argent dans leur monnaie locale. Et donc, ils se sont dit, finalement, la crypto-monnaie, c'est quand même vachement important. Et on a eu des témoignages, par exemple, derrière, de personnes ukrainiennes qui avaient migré en Suisse et qui avaient réussi à retirer de l'argent parce qu'elles avaient du Bitcoin et qu'il y avait des machines, des ATM à Bitcoin en Suisse. Donc, tu as des utilisations comme ça qui sont liées à des contextes géopolitiques très compliqués, qui sont liées à de la migration, parfois, qui sont liées à ce qu'on appelle les remittances, donc le fait d'envoyer de l'argent à l'étranger à coût moindre, notamment pour des populations expatriées. Et puis, tu vas avoir l'utilisation de Bitcoin comme, je dirais, actif refuge. Alors, ça semble très paradoxal chez nous parce que, pour le coup, en France, on ne peut pas dire que Bitcoin n'est pas un actif refuge. Ouais. Mais quand vous avez 300% d'inflation sur l'année, bah, bizarrement, Bitcoin est quand même plus intéressant que votre monnaie nationale pour faire refuge.
Il y avait une étude, alors je ne l'ai plus en tête, malheureusement, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais il y avait une étude qui avait été faite sur le nombre de pays pour lesquels il y avait une inflation à au moins plus de 2 chiffres et pour certains plus de 3 chiffres. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais on parle de milliards de personnes.
Bien sûr.
Donc, il y a un vrai cas d'usage quand même sur la partie refuge où nous, comme tu l'as dit, on ne s'en rend pas compte, mais Bitcoin est beaucoup moins volatile que la monnaie locale ou nationale pour beaucoup de pays.
Et c'est vrai que dans ces pays, la tentation est très forte d'aller acheter du Bitcoin. Alors, il n'y a pas que le Bitcoin. Souvent, ces populations vont aussi se réfugier sur des stablecoins dollars, par exemple, parce que le dollar a une grande stabilité. Donc, il ne faut pas imaginer que Bitcoin est le seul actif refuge, mais ça en fait partie, oui.
OK. Est-ce que tu peux nous donner des... Alors, par exemple, tu parlais plutôt que tu travaillais avec des grands groupes. Est-ce qu'il y a des cas d'usage un peu plus institutionnels que tu vois sur le marché en ce moment ? Parce que là, je pense qu'on parlait vraiment d'un angle un peu des particuliers qui veulent protéger leur épargne ou valoriser leur épargne ou faire des transactions pour s'affranchir ou d'autres, sur d'autres cas d'usage. Est-ce qu'il y a des cas d'usage un peu plus corporate ou un peu plus institutionnel que tu vois aussi ?
Alors oui, moi j'ai beaucoup bossé avec des grands comptes et c'est vrai qu'il y a plein de... Alors ils ont essayé plein de choses, les grands comptes. Par exemple, en 2015-16, on a beaucoup travaillé sur des blockchains privés qui allaient permettre, par exemple, de faire des chambres de compensation en interne pour des flux financiers, même au sein des banques, par exemple. On a travaillé sur de l'assurance indicielle, donc de l'assurance automatisée. On a même travaillé sur de la traçabilité sur blockchain. Enfin, en fait, on a bossé sur beaucoup de choses qui impliquaient une forme de gouvernance un peu décentralisée sur des cas d'usage. Dernièrement, on a aussi beaucoup travaillé sur tout ce qui tourne autour des NFT et des points de fidélité augmentés dans du marketing 2.0, on va dire, auprès d'une nouvelle audience très jeune, où finalement les entreprises se disent, bah voilà, il y a 10 ans, on est allé sur les réseaux sociaux pour s'adapter à une certaine population. Aujourd'hui, on va sur les NFT parce qu'on se rend compte que c'est des actifs protéiformes qui vont intéresser une population jeune et c'est comme ça qu'on veut pouvoir les intéresser à nos produits. Donc, on a travaillé sur beaucoup de choses différentes, mais tu vois, la conclusion que j'en tire, c'est que tant qu'il n'y a pas une adoption quand même assez généralisé des outils liés aux crypto-monnaies. Alors, je ne parle pas nécessairement de Bitcoin en tant que tel, mais une adoption des outils de portefeuille, par exemple, et du fait qu'on a des monnaies qui circulent sur ces blockchains, bah, c'est très compliqué de pousser ces cas d'usage jusqu'à de la production. Exemple tout bête, tu bosses sur de l'assurance automatisée. Si le remboursement automatique il est fait dans un stablecoin ou dans de l'Ether ou dans n'importe quelle crypto, bah, la réalité, c'est que tu limites ton audience au public qui est adepte des crypto-monnaies. Et ça, quand tu es une grande entreprise aujourd'hui, ce n'est pas très intéressant parce que le public adepte des crypto-monnaies, en fait, c'est en France, c'est 10%. Et encore dans ces 10%, globalement, tu en as qui ont juste un compte sur Coinbase et qui n'ont pas de portefeuille. Donc moi, ce que j'en retire, c'est surtout que le point crucial, c'est vraiment cette adoption, pas forcément d'une crypto-monnaie en particulier, mais de cette nouvelle infrastructure technique pour faire circuler des actifs et de la monnaie. Et ça, c'est vraiment clé. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que les entreprises commencent à comprendre ça et qu'on voit arriver, par exemple, de la création de stablecoin, qu'on voit arriver de la tokenisation d'actifs, on voit arriver des choses un peu plus intéressantes et qui devraient permettre de débloquer des cas d'usage qui, paradoxalement, ont été expérimentés il y a déjà 7-8 ans.
Et même sur Bitcoin, il y a quand même des cas d'usage intéressants. Enfin, je voulais juste rebondir sur, parce qu'on nous pose souvent la question et on en parle beaucoup en ce moment, c'est les ETF.
Bien sûr.
Donc, il y a un côté quand même institutionnalisation. Alors là, on revient sur le cas d'usage actif financier. Mais Bitcoin, alors de l'adoption qui est en train d'arriver, il y a un vrai cas d'usage sur la diversification d'un portefeuille, que ce soit pour les particuliers, mais aussi bon, pour les institutionnels. Est-ce que tu voulais toucher un mot sur les ETF, un peu les dernières nouvelles?
Oui, complètement. Alors, c'est vrai que moi, je ne le vois pas comme un cas d'usage parce que c'est une utilisation en tant qu'actif et pas une utilisation opérationnelle du quotidien, bien sûr que ça existe. C'est effectivement quelque chose de très pratique parce que ce que moi j'ai constaté à la fois chez Blockchain Partner et KPMG, c'est qu'il y a plein d'entreprises qui pourraient à un moment donné envisager de diversifier leur trésorerie comme elles la diversifient sur des obligations, sur des actions, mais qui ne le font pas sur du Bitcoin ou sur d'autres cryptos parce que d'un point de vue comptable et réglementaire, c'est très compliqué. Ça les oblige à prendre en compte de la crypto-monnaie dans leur bilan. C'est pas si simple que ça. Ils savent pas comment la valoriser. Et donc, le fait d'avoir des ETF, ça permet de débloquer potentiellement ces investissements. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a plein de gens qui disent le jour où il y aura des ETF, le cours va beaucoup monter. Bon, on sait pas exactement, mais c'est vrai qu'à mon sens, ça va permettre de débloquer opérationnellement plein de potentiels d'investissement, notamment de la part des entreprises. Donc oui, c'est clairement intéressant.
Et on le voit, il y a des ronds. Juste pour donner une idée à ceux qui nous écoutent, on parle de fonds institutionnels et aux États-Unis. C'est intéressant parce que ça permettrait en fait aux particuliers d'en détenir. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les particuliers sont tous exposés au marché actions.
Oui.
Et à travers ces indices comme les ETF, pourraient être exposés du coup indirectement sur leur plan d'épargne retraite, si on peut comparer comme ça, à Bitcoin. Il y a aussi des entreprises, on parle souvent de micro-stratégie. D'ailleurs, il y a une actualité qui en a racheté encore.
Micro-stratégie qui est pour moi quasiment un ETF Bitcoin en fait aujourd'hui, même s'ils ne se présentent pas comme tels, ils ont quand même la majorité de leur bilan qui dépend de
aujourd'hui. En parlant de Bitcoin dans ce sens-là, ça me pensait à une autre question. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment le prix du Bitcoin est déterminé?
Oui, alors l'explication la plus simple, c'est de dire c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire que si demain tout le monde veut acheter du Bitcoin, le prix va monter. Et inversement, si tout le monde veut vendre, le prix va descendre. C'est pour ça qu'on retrouve sur Bitcoin parfois des mouvements d'euphorie ou des mouvements de panique qui sont similaires à ce qu'on peut voir sur les marchés actions. Ils sont peut-être amplifiés parce que pour le coup, sur Bitcoin, il n'y a pas d'arrêt du marché. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à 20h, ça ferme. Non, là, sur Bitcoin, c'est 24 heures sur 24, c'est tous les jours. Donc forcément, les mouvements peuvent être amplifiés dans un sens ou dans l'autre. D'autant plus que c'est un marché assez naissant. Maintenant, l'offre et la demande, comment elle est déterminée? Aujourd'hui, il y a plein de places de marché qui sont des exchanges sur lesquelles il y a des vendeurs et des acheteurs qui vont placer des ordres d'achat ou de vente. Et donc, forcément, les plateformes calculent, j'ai envie de dire de cette manière, une sorte de prix du Bitcoin à un instant T. Et il y a toujours des différentiels entre les plateformes, mais il y a des personnes, des entreprises qui se spécialisent dans ce qu'on appelle l'arbitrage. Et donc, quand il y a une opportunité d'argent à se faire parce que sur une plateforme, il y a un prix plus faible que sur une autre, ces personnes vont acheter sur une plateforme et revendre sur l'autre pour se faire de l'argent. Et donc, au final, ça harmonise au niveau mondial le prix du Bitcoin. Et donc, c'est comme ça que c'est déterminé. Donc, aujourd'hui, il y a plein de sites, que ce soit ceux des plateformes d'échange ou même des sites qui agrègent le prix du Bitcoin sur d'autres plateformes, qui vont indiquer en temps réel le prix du Bitcoin. Donc, vous pouvez le trouver assez simplement en allant sur Google. Vous tapez prix du Bitcoin et voilà, vous allez le voir tout de suite.
Et ce qui est intéressant sur Bitcoin, je pense, une des particularités pour fermer la boucle avec avec d'autres choses qu'on a mentionnées, c'est que l'offre, elle est fixe. Du coup, c'est vraiment la demande, la fluctuation de la demande de Bitcoin qui détermine le prix du Bitcoin.
L'offre est fixe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... personne ne peut arriver et dire « bon, il y a beaucoup de demandes, on va imprimer des nouveaux bitcoins et puis comme ça, on va harmoniser le prix ». Non, l'offre de bitcoin, elle est déterminée à l'avance. Il y a un certain nombre de bitcoins qui sont émis toutes les 10 minutes. Et donc ça, effectivement, ça crée une forme de stabilité sur l'offre, qui fait que ça, pour le coup, ça dépend, le prix va dépendre beaucoup de la demande. Ouais.
On a vu, alors Bitcoin a commencé de zéro. Est-ce que, juste pour que les gens se réalisent, parce qu'on nous dit souvent, enfin moi en tout cas dans les conversations que j'ai avec pas mal de personnes, on parle souvent de « Ah, Bitcoin a récemment baissé » ou « Bitcoin a récemment monté ». C'est vrai qu'on parle souvent d'horizon de temps. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'évolution, puisqu'on est parti de zéro, en fait finalement Bitcoin n'avait pas de cours quand ça a démarré, un peu l'évolution du cours du Bitcoin dans le temps, les différents facteurs qui ont fait que le prix est parti de zéro finalement pour atteindre aujourd'hui plus de 30 000 euros.
C'est vrai qu'au début, il n'y avait pas de plateforme d'échange, donc il n'y avait pas de cours, en fait c'était une sorte de troc. C'est-à-dire que les gens se disaient, voilà, je te file 3 Bitcoins parce que tu as été sympa avec moi, ou alors je te file 3 Bitcoins et puis en échange, tu me fais une pizza. Enfin, je caricature, mais il y a
pour
eu...
Pour la petite référence.
Voilà, pour la petite référence, il y a eu un achat de pizza à 10 000 Bitcoins qui... est un jour emblématique.
C'était la première transaction, soi-disant, commerciale de Bitcoin, c'est ça? Vraiment, j'envoie des Bitcoins pour obtenir un produit.
C'est ça. En tout cas, c'est la première trace qu'on a de ça. Il y en a sans doute eu avant, mais c'est vrai que ça, c'est apparu sur un forum. Donc forcément, on en a une trace. Et ça paraît tellement absurde aujourd'hui parce que c'était 10 000 Bitcoins, donc ce qui aujourd'hui serait un montant énorme. Donc forcément, ça fait date dans la communauté crypto. Mais forcément, au bout d'un moment, il y a des plateformes qui sont mises en place, donc Bitcoin a commencé à avoir un cours. Et on remarque aujourd'hui qu'il y a des sortes de cycles sur Bitcoin qui sont largement liés à l'émission monétaire qu'il y a sur Bitcoin. Je disais tout à l'heure, il y a des Bitcoins qui sont émis toutes les 10 minutes parce que les transactions sont validées par bloc. Et donc, dans chaque nouveau bloc de transaction, il y a un certain nombre de Bitcoins qui sont émis. En ce moment, c'est 6,25 à peu près toutes les 10 minutes à chaque nouveau bloc. Et ce montant de Bitcoin qui est émis à chaque nouveau bloc, il est inscrit dans l'algorithme depuis le début. Et on l'a dit aussi tout à l'heure, le nombre de Bitcoins ne dépassera jamais 21 millions. Et donc, cette émission, elle est décroissante. Donc, c'est-à-dire qu'au début, il y avait beaucoup de Bitcoins qui étaient émis. Et puis, au fur et à mesure du temps, il y en a de moins en moins. Mais il y en a de moins en moins, pas de manière linéaire. Il y a des sortes de chocs tous les 4 ans qu'on appelle le halving, ce qui en anglais veut dire division par deux. Et donc, tous les 4 ans, le montant de Bitcoin émis dans chaque bloc est divisé par 2. Donc, par exemple, il y a 4 ans, ce n'était pas 6,25, mais c'était 12,5 Bitcoin. Et quand on analyse le cours du Bitcoin, effectivement, on remarque que tous les 4 ans, il y a cette espèce de cycle où, d'un coup, le cours du Bitcoin flambe et puis forcément se régule et donc se casse la figure après pour réatteindre un seuil qui était quand même plus haut qu'au début de la vague. Mais donc, c'est pour ça qu'il y a ces phénomènes aussi de hype et de bulles, puis de ce qu'on appelle le bear market, donc un marché qui, pour le coup, va stagner plutôt en phase descendante ou en tout cas, il ne va pas se passer grand-chose. En fait, ce qu'on imagine, c'est que ce halving qui crée un choc sur l'offre de Bitcoin fait que l'offre, d'un coup, est
plus
moindre.
Rare.
Voilà, est plus rare, il y a moins de Bitcoin, alors que la demande, elle n'est pas divisée par deux d'un coup. Et donc, c'est comme ça qu'on dit, le cours du Bitcoin monte à chaque halving. Alors, je vais quand même être très prudente parce que là, il y a beaucoup de gens qui vont faire des conclusions en disant, du coup, prochain halving,
mi-2024. Oui, parce que j'allais dire, il y en a un bientôt.
Voilà, il y en a un mi-2024, donc ça veut dire que ça va monter. En fait, on n'en sait rien. Aujourd'hui, il y a eu 3 cycles, donc on a vu 3 grandes montées. Certains experts s'accordent à dire que ça va probablement remonter un peu avec le nouveau halving. On voit quand même que chaque montée est moins impressionnante que la précédente. Alors, c'est difficile à voir quand on regarde les graphiques en valeur absolue, parce que si vous regardez un graphique sur le prix du Bitcoin, vous allez avoir l'impression que ça valait rien jusqu'en 2017 et que depuis, il y a eu une espèce de hype incroyable en 2021. Alors qu'en fait, si on regarde de manière proportionnelle, donc avec des échelles logarithmiques par exemple, on voit bien qu'en proportion, ça augmente moins. C'est-à-dire que, par exemple, la bulle de 2017, le prix du Bitcoin était passé de moins de 1 000 $ à 20 000 $. Et on voit que sur la dernière bulle qui a eu lieu, on est plutôt passé de moins de 20 000 $ à 60 000, donc une multiplication par 3 et pas par 20. Donc, il ne faut pas imaginer qu'avec le prochain halving, on va avoir une bulle extraordinaire et que d'un coup, vous allez faire x10 sur vos Bitcoins. Ce ne sera probablement pas le cas. Donc, je ne voudrais pas que des gens en achètent en masse parce que j'ai dit ça et que ça va augmenter. Mais c'est vrai que le plus probable, c'est que cette division par deux recrée de nouveau un petit choc sur l'offre et que ça favorise, je dirais, une montée du cours à ce moment-là, qui ensuite sera de nouveau probablement suivi d'une baisse.
Et du coup, alors même si ce n'est pas le message qu'on veut faire passer, mais de manière générale, si quelqu'un veut acheter du Bitcoin, comment ça se passe aujourd'hui? Quelqu'un en France qui veut acheter du Bitcoin?
Aujourd'hui, il y a plein de places de marché différentes qui vont vous proposer des expériences utilisateurs relativement simples. Donc, il y a quand même une chose à savoir, c'est que c'est un univers qui est réglementé. Donc, vous ne pouvez pas arriver et en 3 clics acheter du Bitcoin. Il va quand même falloir donner des informations sur votre identité, donc donner une pièce d'identité, procéder à un certain nombre de vérifications, un peu comme quand vous ouvririez un compte bancaire sur une banque, par exemple. Mais ça va quand même assez vite. Et ensuite, vous pouvez acheter du Bitcoin avec votre carte bleue ou en faisant un virement bancaire. Donc, il y a plein de solutions différentes. Moi, je recommande chaudement s'orienter vers une plateforme qui est enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc prestataire de services sur actifs numériques, parce que c'est une garantie en termes de sécurité et de fiabilité de cette plateforme. Et ce que je recommande aussi, c'est de faire ce que vous proposez très bien chez Bitstack, c'est-à-dire du DCA, qui est un investissement lissé dans le temps. Parce que souvent, les gens qui investissent sur Bitcoin me disent « Mais c'est quoi le bon moment pour acheter du Bitcoin ? Est-ce que je dois acheter maintenant ? Est-ce que je dois attendre un mois ? Mais si ça baisse ? Mais si ça monte ? Comment je fais ?» En fait, la meilleure manière, c'est de se dire « Vous épargnez un petit peu chaque mois. » Ça peut être un montant très faible. Hein. Ça peut être dire « Voilà, vous mettez 5 euros chaque mois dans Bitcoin. Si vous n'avez pas les moyens de mettre plus, c'est juste une petite diversification de votre épargne. » Et ça se fait très facilement avec Bitstack, avec certains autres aussi. Et je trouve que c'est une manière saine de gérer l'investissement parce que ça évite de tomber dans le trading un peu facile qui peut être dangereux et qui peut amener certains à gagner beaucoup ou à perdre beaucoup surtout, alors qu'ils ne connaissent pas vraiment le sujet et les différentes cryptos.
Au passage, j'en profite pour vous présenter Bitstack, l'application qui permet d'épargner et investir en Bitcoin sans aucun effort. Comment ça marche ? C'est très simple. Il suffit de télécharger l'application, connecter son compte bancaire et Bitstack arrondit ensuite toutes vos dépenses du quotidien à l'euro supérieur et investit automatiquement la petite monnaie en Bitcoin. Par exemple, un café acheté 2,60€ est arrondi à 3€ et les 40 centimes de différence sont automatiquement investis en Bitcoin. C'est simple, ludique et indolore. Vous pouvez aussi acheter et vendre du Bitcoin instantanément à partir de 1€. Téléchargez l'app sur les App Store dès maintenant et saisissez le code promo qui s'affiche juste ici pour gagner 5€ en Bitcoin. Et pour un peu fermer la boucle avec, disons, quelqu'un qui maintenant détient du Bitcoin depuis un certain temps, est-ce qu'il peut en faire quelque chose ? Est-ce qu'il peut aller payer dans un magasin aujourd'hui?
Alors, il peut, mais très honnêtement, c'est pas le plus simple, c'est pas le plus facile. Enfin, voilà, moi, j'ai du Bitcoin, mais la vérité, c'est que je paye en magasin avec ma carte bleue classique. Aujourd'hui, il y a quand même des services de carte bleue, effectivement, qui vous permettent de payer en Bitcoin, dans le sens où c'est une carte bleue qui va être proposée par la plateforme PSAN, par exemple, que vous utilisez, et qui va prélever votre compte, entre guillemets, de Bitcoin pour payer et pour que le commerçant reçoive des euros. Donc, vous ne payez pas réellement en Bitcoin, dans le sens où le commerçant, lui, ne reçoit pas des Bitcoins, mais c'est un moyen quand même d'utiliser vos Bitcoins pour du paiement si vous le souhaitez. Et il y a quelques commerçants en France qui acceptent le Bitcoin vraiment en moyen de paiement, mais si on est un peu honnête, c'est vraiment une minorité.
Ça reste niche, ouais. Juste pour rebondir sur deux petits points, effectivement, en fait, aujourd'hui, je pense que les gens préfèrent conserver leur Bitcoin, en fait,
oui.
Et dire je vais dépenser ma monnaie fiat, hein, ma monnaie traditionnelle, mes euros, puisque finalement, c'est... Ça prend pas de la valeur. Et plutôt, oui, sur de l'épargne, je vais garder mes bitcoins puisque potentiellement,
oui,
ça prend de la valeur dans le temps.
Aujourd'hui, surtout en France, on le voit comme un actif vraiment de diversification du portefeuille. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de le dépenser, même si Bitcoin se veut aussi être un réseau de paiement. Donc, ça peut être c'est un actif que je vois comme protéiforme qui peut être utilisé pour du paiement si on en a envie, si on en a besoin.
Mais je recommande d'ailleurs, c'est vrai que ça reste très niche, mais j'invite tout le monde à regarder parce que je pense que... Alors nous, on est à Paris, mais pas qu'à Paris, je pense dans d'autres villes, c'est le cas. Il y a quelques commerçants qui acceptent du Bitcoin réellement.
Oui.
Donc, c'est voilà, pour ceux qui veulent essayer. Puis ça donne une idée aussi de comment Bitcoin peut être utilisé comme vraiment un réseau de paiement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer sur ce point-là, quand on fait réellement une transaction en Bitcoin, pour que les gens illustrent, souvent, c'est je vais scanner un code QR ou je vais rentrer une adresse Bitcoin. En fait, qu'est-ce qui se passe derrière ? Comment ça fonctionne ?
Alors, bonne question. Et surtout, ça dépend un peu de ce que vous utilisez pour faire votre transaction. Donc, ce n'est pas pareil si vous faites une transaction avec votre portefeuille à vous ou si vous faites une transaction via une plateforme qui, elle, va probablement regrouper un certain nombre de transactions aussi, si elle doit envoyer de l'argent à une autre plateforme, etc. Mais on va prendre le cas le plus simple. Vous avez un portefeuille, vous voulez envoyer de l'argent
en
à votre
direct,
copain,
ouais.
Voilà, en direct. En fait, votre transaction, à ce moment-là, elle va être mise dans une espèce de groupe de transactions en attente sur le réseau, donc qui s'appelle le mempool, qui est une sorte de... Voilà, de vraiment...
C'est une mémoire, en fait.
Exactement,
une mémoire, transaction.
Une sorte de mémoire de toutes les transactions en attente. Et ce qui se passe, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a plein de gens, de mineurs notamment, qui participent au réseau, qui participent à la validation des nouvelles transactions. Et donc, ces mineurs vont aller piocher. Alors, quand je dis ils vont aller piocher, ce n'est pas des êtres humains qui décident ça à la main, évidemment, c'est des machines, mais ces machines vont aller prendre des transactions dans ce groupe des transactions en attente et vont créer un nouveau bloc de transactions à valider. Quand il n'y a pas beaucoup de transactions en attente, ben, elles les prennent toutes. S'il y a énormément de transactions en attente, ben, peut-être que la vôtre ne passera pas dans le prochain bloc. Mais il faudra
en fonction des frais, d'ailleurs, ils sont rémunérés par les frais.
Exactement,
de
transaction. Exactement, évidemment, les mineurs ont un incentive économique, donc ils vont aussi aller piocher les transactions où il y a le plus de frais pour se rémunérer le plus cher possible. Et donc, vous, si vous êtes pressé, vous avez intérêt à mettre beaucoup de frais. Si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez mettre très peu de frais. Et donc, votre transaction qui est mise dans ce nouveau bloc à valider, voilà, les machines vont tourner. Et à un moment, un des mineurs va dire, bah voilà, moi, j'ai un nouveau bloc qui fonctionne selon des critères de résolution d'équations cryptographiques. Les autres vont regarder ce qu'il a fait, vont dire, ouais, effectivement, ton bloc fonctionne bien. Et puis, ils vont tous s'accorder sur une version du bloc à ajouter à ce fameux registre, à cette blockchain. Et c'est à ce moment-là que... Bah, tous les mineurs vont adapter leur version du registre pour ajouter ce nouveau bloc. Et donc, à partir de là, la transaction est effectuée. Et donc, vous allez voir apparaître sur votre interface la transaction comme effectuée. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a un certain nombre de services qui vont vous permettre de voir ça beaucoup plus rapidement, sans forcément attendre les 10 minutes. Certains qui, au contraire, vont attendre qu'il y ait plusieurs blocs ajoutés pour être bien sûr que votre transaction est passée. Donc, ça peut varier selon les services que vous utilisez. Mais dans tous les cas, ce qui se passe derrière, c'est ça. C'est-à-dire des transactions en attente, des mineurs qui créent des blocs, un bloc qui est validé et tout le monde qui est d'accord sur une nouvelle version du registre.
Et si je peux me permettre de juste rajouter une chose pour que les gens comprennent bien, quand on parle de la création du bloc et qu'un bloc est validé, en fait, toutes ces équations mathématiques, hein, on simplifie beaucoup pour ceux qui nous écoutent, c'est de s'assurer en fait, ce qui n'est pas ce qu'on appelle la double dépense et que, en fait, on retrace tout l'historique pour s'assurer que la personne qui dépense ses bitcoins a bien ses bitcoins.
Il y a deux choses. Il y a le fait de vérifier que vous n'inventez pas des bitcoins. C'est quand même un point très important. Ça, c'est vérifié à la fois par les mineurs, mais c'est vérifié aussi par tous ceux qui ont le logiciel, tous ceux qui ont le registre, qui hébergent ce registre. Et ça peut être vérifié par tout le monde, en fait, puisque le registre est transparent sur Internet, vous pouvez y avoir accès. En revanche, il y a aussi une forme de sécurisation du réseau qui est propre au minage, qui n'est pas tellement liée à cette vérification de la double dépense, mais qui va permettre de faire en sorte qu'il n'y ait pas n'importe qui puisse arriver sur le réseau avec son téléphone et dire moi aussi je vais participer à la validation du réseau et moi aussi je vais proposer un nouveau bloc et je vais pouvoir valider un nouveau bloc. Non, il y a une sorte de coût à l'entrée, de barrière à l'entrée qui est une dépense énergétique nécessaire pour résoudre une équation qui en fait n'a pas de sens en tant que telle, mais qui va permettre de mettre d'accord tout le monde puisque c'est une équation mathématique assez, qui est en fait assez basique mais que vous ne pouvez résoudre qu'en testant toutes les combinaisons possibles. Et ça, ça fait que finalement, les mineurs qui vont faire le plus d'investissements en termes de consommation, pas de consommation d'énergie, mais d'efficience énergétique, je dirais plutôt, vont avoir une chance de trouver la solution plus vite et donc d'être ceux qui vont valider plus régulièrement des blocs. Donc, vous ne pouvez pas arriver juste avec votre téléphone demain et miner des bitcoins, ce n'est pas possible. Il y a une sorte de coût à l'entrée qui n'existait pas au tout début de Bitcoin, donc le réseau était beaucoup moins sécurisé qu'aujourd'hui. Mais voilà, aujourd'hui, il faut cette dépense énergétique pour sécuriser le réseau.
Donc pour récapituler, et tu me corriges si je me trompe, on a donc quelqu'un qui part de son téléphone qui veut effectuer une transaction en Bitcoin. La transaction est envoyée dans cet espace de mémoire en attente. Les mineurs piochent dedans et font une dépense énergétique qui sécurise le réseau au passage et qui crée une barrière, un coût ou une barrière à l'entrée. Et ce bloc, une fois créé, est envoyé à tous ceux qui ont le registre du réseau de Bitcoin. Ce registre Bitcoin hébergé sur leur ordinateur, donc qui ont le logiciel de Bitcoin, qui, eux, valident que ça respecte bien toutes les conditions du protocole. Voilà. Grossièrement, c'est ça.
Alors, les techniciens qui écoutent vont forcément trouver des choses à redire, mais voilà, c'est ça.
Globalement. Pour qu'on comprenne un peu la chaîne opérationnelle du protocole. On a parlé du paiement. Aujourd'hui, un peu la même question que je t'ai posée, mais sur la partie sécurisation. Nous, on le voit aussi chez Bitstack. Il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui se posent la question de comment sécuriser eux-mêmes leur Bitcoin. Comment ça marche? Qu'est-ce que ça veut dire?
Tu veux dire héberger soi-même son portefeuille?
Ouais, voilà. Par exemple, j'achète du Bitcoin sur Bitstack ou sur n'importe quelle autre plateforme. Et je me pose cette question de dire, OK, je comprends un peu le principe de Bitcoin, que je peux posséder réellement moi-même mes Bitcoins et les sécuriser moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les étapes? Comment je peux faire ça?
Alors le truc de puriste que je ne recommande pas, mais qu'il faut connaître quand même, qui est ce que faisaient les gens au début, c'est ce qu'on appelle le paper wallet, donc le portefeuille sur papier, où en fait vous allez simplement avoir un papier sur lequel vous allez indiquer votre clé privée, en quelque sorte. Donc vous aurez au préalable créé vous-même votre adresse Bitcoin avec la clé privée qui correspond, sur des sites internet qui vont vous permettre de le faire. Et vous conservez votre mot de passe sur un papier et vous allez envoyer vos bitcoins de Bitstack, par exemple, à cette adresse. Et donc, sur cette adresse-là, dont vous êtes le seul à posséder la clé privée, il y aura vos bitcoins. Je déconseille cette méthode, en tout cas pour les débutants, parce que les gens ont tendance à ne pas prendre soin des petits bouts de papier qui traînent chez eux. Et en plus de ça, vous avez un bout de papier qui traîne, donc ça veut dire que d'autres personnes peuvent le voir, peuvent prendre une photo et donc avoir accès à vos bitcoins aussi. Mais il faut savoir qu'il y a un certain nombre de gens et de puristes qui utilisent encore cette méthode aujourd'hui. Je dirais que la façon la plus simple désormais de gérer ça, c'est soit d'acheter un ledger, notamment. Alors, c'est un certain coût. Je crois que les premiers doivent être à une cinquantaine d'euros. Donc, si vous n'avez que 50 euros de Bitcoin, ça ne vaut peut-être pas la peine de le faire. Mais à partir d'un certain montant, ça vaut la peine d'avoir son propre portefeuille. Et donc là, ça ressemble un peu à une clé USB. et vous la branchez à votre ordinateur et vous avez un petit logiciel, donc vous suivez les étapes et ça vous permet d'avoir à la fois un code PIN, ce qui est quand même plus pratique qu'une très longue suite de chiffres et de lettres à retenir, et vous avez une phrase de sauvegarde comme une sorte de code PUC, vous savez, sur votre téléphone, donc qui vous permet de récupérer quand même vos accès à vos bitcoins si vous avez oublié le code PIN de la clé. Donc ça, c'est une méthode assez pratique que moi j'utilise, que beaucoup de gens utilisent dans la crypto, qui vous permet de stocker vos bitcoins et d'autres crypto-monnaies aussi. Je parle de Ledger parce qu'ils sont français, mais je sais qu'ils ont aussi quelques concurrents. Et désormais, on voit arriver des portefeuilles dits numériques qui vous permettent de stocker vous-même vos bitcoins sans forcément avoir un hardware, donc avoir un dispositif physique. Alors, ces portefeuilles existent un peu plus sur d'autres cryptos que Bitcoin, hein, sur Ethereum notamment, il y en a beaucoup, on connaît particulièrement MetaMask, mais il y en a plein. Mais c'est assez intéressant parce que ça vous permet d'avoir accès quand même assez facilement à vos bitcoins, par exemple, sur votre téléphone, de pouvoir les dépenser aussi un peu plus facilement, avec parfois des systèmes de gardiens, où vous allez nommer des gardiens dans votre entourage en disant, voilà, si je perds mon téléphone, par exemple, il y a telle et telle personne qui peuvent attester que j'ai bien besoin de récupérer mes fonds. Donc, il y a des systèmes comme ça qui commencent à exister, mais ça reste en évolution et en recherche. Voilà, ça fait probablement 1 ou 2 ans qu'on voit ces portefeuilles-là arriver.
Ok, très clair, un peu pour les bonnes pratiques ou en tout cas comment démarrer. Mmh. Je voulais rebondir sur un autre sujet. Je pense à toutes les bonnes pratiques sur acheter, sécuriser. Globalement, tu parlais tout à l'heure de favoriser les plateformes PSAN. Oui. Ça me fait rebondir sur le fait qu'il y a un cadre réglementaire aujourd'hui qui existe. Parce que souvent, et encore aujourd'hui, malheureusement ou pas, on pense que Bitcoin n'est pas du tout régulé, que c'est encore le Far West. Est-ce que tu pourrais nous rappeler, dans les grandes lignes, on a eu Faustine qui nous en a bien parlé en détail, mais dans les grandes lignes, quel est le cadre réglementaire? Qu'est-ce qui existe? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça implique?
Oui, alors, je vais le rappeler, mais il faut bien voir qu'il est en évolution, puisqu'on va avoir un durcissement du cadre réglementaire qui est prévu depuis longtemps et une harmonisation à l'échelle européenne. Mais je dirais que le point principal à connaître sur le cadre réglementaire, c'est qu'aujourd'hui, les plateformes, les entreprises qui permettent soit d'acheter et de vendre du Bitcoin ou d'autres cryptos d'ailleurs, ou de stocker pour autrui les crypto-monnaies, donc de, par exemple, gérer un portefeuille à votre place, ces entreprises-là doivent s'enregistrer, on dit donc faire un certain nombre de déclarations à l'autorité des marchés financiers pour être enregistrées, on appelle ça des PSAN, pour prestataires de services sur actifs numériques. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui sont vérifiées, notamment tous les sujets autour de la lutte anti-blanchiment qui sont nécessaires pour l'enregistrement. Et là, on va avoir un durcissement pour passer d'un enregistrement à un agrément, avec notamment des exigences en matière de cybersécurité, de fonds propres, d'assurance, etc. Et globalement, on s'approche petit à petit d'une réglementation qui ressemble à celle du monde bancaire, même si on n'est pas exactement au même niveau que la réglementation bancaire. Mais dans tous les cas, voilà, les plateformes qui sont en France doivent avoir cet enregistrement. Il y a un certain nombre de plateformes étrangères sur lesquelles vous pouvez acheter des crypto-monnaies qui ne sont pas enregistrées PSAN en France. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas sécurisées, mais ce que ça veut dire en revanche, c'est que s'il y a un problème avec cette plateforme, ça va être très difficile en tout cas d'engager une action juridique parce que si la plateforme elle est basée aux États-Unis ou aux Bahamas ou je ne sais où, les avocats ne vont pas pouvoir aller poursuivre facilement cette plateforme-là. Et donc, c'est pour ça que moi, j'encourage largement à s'orienter vers des plateformes enregistrées PSAN en France.
On n'est pas soumis tous aux mêmes exigences en fait réglementaires. Globalement, c'est ça qu'on dit.
Exactement.
Entre une plateforme enregistrée PSAN en France et une plateforme enregistrée ou non dans un autre pays. Chacun a ses exigences propres. Et je pense que c'est important de le rappeler que la France et nous, d'ailleurs, c'était une des décisions pour qu'on a lancé Bitstack en France, a un des cadres les plus stricts, si je me trompe. C'est ça.
Oui, en fait, la France a mis en place un cadre très tôt, beaucoup plus tôt que d'autres pays. Parce qu'il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage principal, c'est que déjà, on a servi, de source d'inspiration à plein d'autres pays. Ça fait de nous une sorte de standard à l'international, ce qui est très bien. Ça apporte un certain nombre de protections auprès des consommateurs. En revanche, ce n'est pas ça qui va dissuader des fraudeurs d'aller faire des arnaques s'il faut. Je veux dire, si quelqu'un n'est pas PSAN et a une activité au fin fond d'une cave sur les cryptos, il ne va pas forcément être détecté ni poursuivi. Donc, c'est pour ça que ce qui est bien, c'est vraiment d'aller voir la liste des plateformes PSAN et de se fier à cette liste-là.
Ok. Et pour rappel, du coup, qu'on peut trouver sur Internet, on tape liste...
Liste de PSAN, AMF. Voilà, vous fouillez sur le site et vous allez trouver.
Il y a une liste blanche et je crois même qu'il y a une liste noire pour ceux qui ne sont pas
enregistrés. Oui, c'est assez récent, il me semble. Okay. Mais il y a effectivement une liste noire qui n'existait pas il y a 3-4 ans, mais maintenant, il y en a une.
Ok. Pour prendre un peu, et on va arriver vers la fin de l'interview, mais pour prendre un peu de recul, pour toi, un peu, c'est quoi l'impact que Bitcoin peut avoir sur la société, sur notre système financier? Si on se projette, déjà on voit l'évolution qu'il y a eu, qui est déjà pas mal sur les 13 dernières années. Voilà, si on se projette un peu, c'est quoi l'impact que Bitcoin peut avoir? Et qu'est-ce que ça peut changer concrètement pour les gens?
Moi, je vois vraiment Bitcoin comme une sorte de contre-pouvoir et de garde-fou, qui est une sorte de garantie que nos systèmes ne vont pas devenir des systèmes de surveillance massive ou des systèmes complètement totalitaires. Parce que si les populations ne seront pas satisfaites du système dans lequel elles sont, parce qu'il y a une mainmise trop importante, par exemple, parce qu'elles se sentent surveillées, Bitcoin fait office de contre-pouvoir et permet, je dirais, des actes de résistance. Donc, parfois, ce que ça veut dire aussi, c'est ça nécessite d'accepter que Bitcoin soit utilisé pour des causes qui ne sont pas celles qu'on soutient. Donc, c'est utilisé par les gentils et les méchants, si je fais un schéma très basique. Mais pour moi, c'est un élément vraiment de santé de nos sociétés. Parce que ça empêche les autorités, les personnes qui sont au pouvoir, de faire trop n'importe quoi, parce que s'il y a des dérives trop importantes, Bitcoin est là. Et donc, moi, je ne souhaite pas forcément que Bitcoin réussisse et soit adopté partout, même si c'est une des possibilités, parce que finalement, si nos systèmes traditionnels, si nos intermédiaires fonctionnent bien, on n'aura pas trop besoin de Bitcoin. Alors effectivement, c'est un actif financier intéressant, hein. Mais au quotidien, on pourra s'en passer et on pourra rester sur des paiements en euros, par exemple. En revanche, si Bitcoin a énormément de succès, ce que ça veut dire, c'est soit qu'il y a une sorte d'accord implicite international sur le fait que voilà, les banques centrales sont dépassées, qu'elles n'arrivent pas à suivre technologiquement. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas que Bitcoin. En fait, il y aura plein d'autres crypto-monnaies, il y aura des stablecoins. Donc, ce n'est pas nécessairement Bitcoin qui émergera en tant que tel. Pour moi, si Bitcoin émerge vraiment en tant qu'actif, c'est qu'il y a eu des problèmes. Pour le dire très franchement, ce qui n'est pas du tout impossible non plus. Mais c'est ma conviction et c'est pour ça que moi, je crois que Bitcoin est vraiment essentiel dans nos sociétés aujourd'hui.
D'où le garde-fou que
Exactement.
Tu mentionnes.
Ouais.
Et on parle souvent aussi de... Enfin, certaines personnes parlent de Bitcoin comme potentielle réserve de valeur un peu mondiale, un peu
oui.
comme le rôle que le dollar US joue aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est quelque chose...
Oui, c'est un point intéressant d'ailleurs qu'on développe un peu dans notre livre. C'est qu'aujourd'hui, les États-Unis ont encore une place prégnante à l'international, avec une monnaie qui est utilisée comme monnaie de référence partout dans le monde. Alors, on peut s'en contenter, mais on peut aussi se dire que c'est quand même pénible de toujours dépendre des États-Unis, qui ont en plus des règles d'extraterritorialité qui sont assez pénibles et qui font qu'ils peuvent poursuivre n'importe qui partout sur la planète parce que cette personne a utilisé leur monnaie. Et donc, l'utilisation de Bitcoin serait probablement bénéfique pour le commerce international parce qu'on utiliserait une monnaie qui ne dépend pas d'un État, qui n'est pas assujettie à un État. Exactement. Donc, je trouve que ça, c'est un cas d'usage intéressant aussi.
Ok, on est presque à la fin, j'ai deux dernières questions pour toi. Déjà, est-ce que tu donnerais, quel conseil tu donnerais? Alors, on en a donné plein, on a donné des bonnes pratiques, mais pour conclure, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a entendu parler du Bitcoin? C'est souvent le cas de beaucoup de gens encore, on disait il n'y a que 10% ouais. potentiellement de Français qui en ont déjà acheté. Bon, pour les 90% qui a entendu parler du Bitcoin à la télé ou n'importe où, un ami, qu'est-ce qu'on leur conseille?
Comme ressource, tu veux dire ou...
Alors, ouais, comme ressource, ou voilà, c'est à quoi un peu la démarche à suivre si on est curieux, on veut en apprendre plus qu'est-ce
Alors,
qu'on fait
sur Bitcoin spécifiquement, ce que je conseillerais, c'est déjà, il y a un site qui s'appelle bitcoin.fr, qui est super, ouais. qui explique le Bitcoin, qui a plein d'articles, qui donne aussi d'ailleurs des actualités, des événements, qui fait des liens vers d'autres vidéos, etc. Donc, c'est un super site pour se renseigner, qui est tenu par des gens qui connaissent extrêmement bien le sujet. Il y a un reportage d'Arte qui est sorti il y a 2 ans, il me semble, on en a parlé tout à l'heure, qui est extrêmement bien fait aussi, qui s'appelle Le Mystère Satoshi.
En trois épisodes, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
Six épisodes, okay. il me semble. Enfin, vous verrez, il y a
ouais.
plusieurs épisodes.
Mais c'est, je confirme aussi, très
ouais,
bien fait. Ouais.
Qui est vraiment très, très bien fait et qui explique aussi toute la culture de la communauté, toute l'idéologie qu'il peut y avoir derrière ce projet. Et voilà, c'est un reportage qui traite vraiment bien du sujet. Et je conseille évidemment aussi le livre que j'ai écrit avec Alexandre qui s'appelle Bitcoin et crypto-monnaies faciles.
Pour ceux qui nous écoutent, alors
qui
vous
est
le verrez
facilement
pas.
Identifiable, normalement par sa couleur.
Mais Bitcoin et crypto-monnaies faciles, comprendre
voilà,
les monnaies numériques et leurs enjeux économiques et politiques.
Ouais, c'est un livre qui s'adresse vraiment aux débutants, qui n'est pas technique, qui parle. Alors on parle de Bitcoin pendant, je dirais, le premier quart du livre, et après on part aussi sur d'autres crypto-monnaies, sur les enjeux culturels et politiques. Et on a écrit ce livre avec Alexandre parce que nous, on a fait plein de conférences ces 7 dernières années. On a essayé vraiment d'expliquer les crypto-monnaies avec pédagogie. Et souvent, les gens nous disaient, mais est-ce que vous avez un livre à nous conseiller? Et on était souvent bloqués parce qu'on se disait, mais les livres qui existent, c'est soit des livres qui rentrent beaucoup dans la technique, donc peu accessibles, soit des livres qui parlent de trading et de comment se faire de l'argent. Et nous, on voulait vraiment quelque chose qui n'était ni technique, ni trop financier. Donc voilà, on a écrit ce livre-là. Et je pense que c'est une belle réussite parce que voilà, ceux qui l'ont lu m'en ont dit plutôt du bien.
Ok, super. Ben, merci beaucoup.
Merci
on arrive à la fin de cet épisode de Comprendre Bitcoin. J'espère que ça vous aura plu et que cet épisode aura été riche d'enseignements pour vous. Un grand merci à toi, Claire, pour avoir partagé ton expertise, ton expérience, un peu les bonnes pratiques. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui nous ont regardés, on espère que vous avez trouvé cet épisode aussi instructif que passionnant. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à suivre notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous écouter en audio sur Apple Podcasts, Spotify, sur toutes les autres plateformes. Laissez des commentaires puisque toute l'équipe adore lire vos messages. Nous, on les lit tous. Si vous nous donnez des conseils, si vous avez des invités que vous aimeriez voir sur Comprendre Bitcoin, ça nous donne des idées. Et comme d'habitude, aussi, si vous avez des idées de thèmes ou de sujets abordés, n'hésitez pas à nous le laisser savoir. N'oubliez pas de vous abonner. Encore une fois, merci à toi, Claire. Bonne journée. À bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode.